toutes et à tous. Donc, un micro ouvert comme chaque vendredi soir. Et ce soir, il sera question d'histoire. L'histoire, il y a cela 50 ans. Avec Michel Cuny et Françoise Petit-Demange, auteur du livre « Fallait-il laisser mourir Jean Moulin ?» Bonsoir, Françoise Petit-Demange. Bonsoir, Michel Cuny. Et avec moi, Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude.
Bonsoir.
Alors, un livre qui est en forme d'un point d'interrogation, nous y viendrons tout à l'heure, mais auparavant, ce n'est pas le premier livre que vous avez écrit, d'autres auparavant, depuis de nombreuses années. Là, auparavant, c'était tous, pour ainsi dire, des romans, et là, c'est l'histoire. Alors, c'est une partie de l'écrivain et l'autre partie qui s'est révélée.
Ça a commencé par
les
romans parce qu'il s'agissait de prendre des cas individuels et curieusement ces cas individuels ont été pris dans la région de Saint-Dié puisque nous sommes Françoise Petit-Demange et moi-même originaires de cette région et ça a été le début de nos carrières d'écrivaine et d'écrivain puisqu'il s'agit carrément de carrière. Nous avons progressivement découvert Saint-Dié, les environs de Saint-Dié. Notre démarche s'est étendue à l'ensemble de la région nord-est. Et puis, en 1983, nous sommes arrivés à Lyon. Et là, nous avons quitté l'univers romanesque pour nous lancer dans la rédaction d'un très gros livre qui s'intéressait à l'installation de l'enseignement et de la psychiatrie. Et notre périple à travers la France s'est, dès ce moment-là, développé d'une façon qui, pour nous, est restée une surprise.
Oui, le passage du roman au récit et aux essais, si l'on peut dire, était un passage aussi facile aussi, François Petit-Demange.
Le travail sur les romans, c'est un travail tout à fait individuel. Chacun écrit ses romans. Le travail en commun, c'est bien évidemment un travail où chacun lit des ouvrages, puisque nous travaillons sur des textes. Chacun lit des ouvrages, prend des notes. Certains des ouvrages sont lus par l'un et l'autre. Nous prenons des notes chacun de son côté. Et puis ensuite, nous relions nos notes et nous voyons ce qu'il est intéressant de tirer de ces notes commune, rassemblée.
Oui. Non, je parlais aussi également de passer du romanesque à l'essai ou au récit. Est-ce que c'est aussi facile
Ce sont deux démarches tout à fait différentes. Une démarche individuelle, bon, chacun est devant sa propre page, tandis que quand nous travaillons en commun, nous sommes deux, nous parlons en écrivant. Ce sont deux démarches tout à fait différentes.
C'est sans doute plus rassurant quand il s'agit de partir de documents, parce que en face d'un roman, la page est véritablement blanche, alors que l'accumulation des documents, ça sert beaucoup à rassurer dans un premier temps. Ensuite, où ça devient moins rassurant, c'est lorsque les recoupements de documents apparaissent et conduisent à des conclusions quelquefois effarantes. C'était vrai pour le livre sur l'enseignement et la psychiatrie, ça l'est plus encore pour le dernier ouvrage.
Et en fait, vous êtes un couple d'écrivains, si j'ose dire, depuis quand ? Depuis combien de temps ?
D'écrivains et d'écrivaines. Je tiens à ces termes-là. Parce que écrivain, c'est vague.
Donc, ça fait depuis 1976, nous sommes là, donc, à revenir à Saint-Dié, 20 ans après que le premier crime ait été commis.
Un beau titre de roman, 20 ans après.
Alors, vous êtes parti donc dans la région lyonnaise pour... à quel moment vous êtes intéressé à Jean Moulin ? C'est justement au moment que vous êtes parti dans la région lyonnaise ou est-ce que c'est quelque chose qui mûrissait depuis fort longtemps ?
Quand nous sommes arrivés dans la région lyonnaise, comme M. Cuny vient de le dire, nous avons travaillé sur Le feu sous la cendre, donc sur un ouvrage qui traite de l'enseignement et de la psychiatrie à travers l'histoire en partant d'assez loin dans le temps, c'est-à-dire en partant de la fin du Moyen-Âge pour arriver jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les années 1960, et pour montrer comment, à partir notamment de 1830-32, s'est mis en place l'enseignement, et comment, à partir des lois sur la psychiatrie en 1838, s'est mis en place ce système. Et nous avons développé cette trajectoire de l'enseignement et de la psychiatrie jusqu'à nos jours, en nous appuyant sur des textes historiques, donc en allant fouiller dans les fonds de bibliothèque.
Pour nous, à cette époque-là, Lyon n'était pas la capitale de la résistance. Lyon, c'était l'endroit où s'étaient produites les crises auxquelles les canuts ont accroché leur nom. En fait, nous étions installés sur les pentes de la Croix-Rousse et le soir de notre arrivée à Lyon, nous avons regardé ces pentes de la Croix-Rousse avec une grande tristesse dans la mesure où nous nous disions le temps des canuts est bien loin, c'est-à-dire le temps d'une certaine effervescence ouvrière.
Oui. Chose étonnante, nous avons vécu de 1983 jusqu'à 1987 à Lyon. Jamais personne ne nous a parlé de la résistance. On nous a toujours parlé des canuts, jamais de la résistance.
Oui, et vous avez trouvé une signification ?
Aucune, non, mais c'est étrange.
Oui, cela dit, à partir de quel moment vous êtes intéressé justement à cette période et à la résistance ?
À Jean Moulin, c'est surtout à partir du moment où nous avons circulé partout en France, où nous sommes allés dans les comités d'entreprise, les bibliothèques de comités d'entreprise, les médiathèques municipales, médiathèques départementales. Et à partir de ce moment-là, nous avons travaillé plus en profondeur sur l'histoire plus récente. Nous vivons à quelques pas du Vercors. Nous avons pour voisin quelqu'un qui a perdu 13 membres de sa famille dans les massacres sur le plateau de Vassieux. Ce qui fait que tout cela nous a mené à nous intéresser de près à ce qui s'était passé dans le Vercors, essayer de comprendre vraiment ces événements. Et ensuite, nous avons développé notre curiosité jusqu'à nous intéresser à la résistance d'une façon générale.
Oui, j'ai cru comprendre tout à l'heure que lorsque vous êtes parti à Lyon, vous pensiez justement trouver de l'essence pour, si je puis dire, entre guillemets, pour écrire ce livre, et puis en fait, de trouver un petit peu quoi, devant une ville qui a tout oublié presque, où personne n'en parlait.
Ça tenait peut-être au fait que nous n'avions pas de questions à poser à ce moment-là sur la résistance elle-même. C'est-à-dire nous venions chercher des documents sur l'enseignement, sur la psychiatrie, et nous avons été très bien accueillis, en particulier à l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Donc les documents que nous cherchions, nous les avons trouvés. Évidemment, pour nous aussi, c'était une expérience très importante dans la mesure où nous nous trouvions là dans une ville qui est la troisième ville de France. Nous changeons de dimension, nous voulions mesurer la situation de la culture dans cette ville, nous avons trouvé ce que nous cherchions et nous n'avons pas trouvé ce que nous ne cherchions pas, c'est-à-dire nous n'avons pas trouvé les traces de Jean Moulin. Et même les ayant trouvées, car je me souviens bien d'avoir vu certaines stèles qui fait référence à Jean Moulin, ça ne nous aurait pas pour autant conduit vers Jean Moulin.
Je voudrais poser la question différemment. Est-ce que c'est en allant à Lyon que vous avez passé en Jean Moulin, ou c'est en passant en Jean Moulin que vous avez dit on va aller du côté de Lyon ?
Lyon, c'est arrivé avant Jean Moulin, largement avant Jean Moulin au total. Et nous avons perdu de vue Lyon au moment où nous avons travaillé sur Jean Moulin, ce qui est bizarre.
Vous disiez tout à l'heure qu'à vos yeux, Lyon n'était pas la capitale de la résistance. À ce moment-là, est-ce que... Après l'écriture de ce livre, est-ce que votre avis a changé ?
Oui, il a nécessairement changé. Simplement, ce qui est certain, c'est que la résistance n'a pas trouvé sa place dans l'histoire de France pour l'instant, c'est-à-dire elle a trouvé sa place du point de vue d'une image lointaine, d'une pseudo-unité. Mais quant aux problèmes qui se posaient à cette époque-là, aux problèmes qui ont été résolus, à ceux qui n'ont pas été résolus, il est bien certain qu'il y a encore énormément de travail à faire. Dans ce cas, donc, Lyon, ça paraît être la capitale de la résistance, mais quand on dit ça, on n'a encore rien dit.
Est-ce qu'on vit, ou est-ce qu'on vivrait par hasard sur des images d'Épinal, si j'ose dire ? Puisque, bon, c'est vrai que, parlons de Jean Moulin et de la silhouette de Jean Moulin qu'on trouve dans tous les livres d'histoire, dans tous les documentaires,
et la même silhouette, d'ailleurs.
Et toujours la même silhouette, bien sûr. Et ça pose peut-être un problème qu'on développera un peu plus ultérieurement, si cela est. Donc, à savoir, pensez-vous, vous êtes-vous heurté à ce problème, je dirais, de l'image d'Épinal, de la résistance, des lieux communs de la résistance, qui cachent une réalité peut-être très différente ?
Oui, c'était plus ou moins prévu, parce que le travail sur l'enseignement et la psychiatrie nous avait conduit à voir que dans différents exemples, l'histoire de France est écrite d'une façon très particulière. Mais tout de même, ça a été pour nous une surprise de découvrir le personnage de Jean Moulin.
Effectivement.
Oui, Françoise.
Non, je ne voulais pas parler précisément, je voyais que le micro était...
était vacant.
Bon, je vous propose une petite pause et puis après on reviendra justement sur ce livre et
donc, la rencontre avec Jean Moulin.
La rencontre, non, le titre surtout.
vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.